Bonjour, je suis Athénaïs Keller. Aujourd'hui, dans le titre à la une, nous revenons sur un mystère qui dure depuis près de 9 mois. 9 mois d'enquête, de recherche et 9 mois d'angoisse pour la famille du petit Émile, disparu le 8 juillet dernier. Et ce dénouement, hier, des ossements de l'enfant découvert à proximité du village du Auvernais. Le petit garçon est mort, mais comment ? Les hypothèses sont encore nombreuses.
Je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient de nous d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Les enquêteurs prenaient possession des ossements immédiatement transportés à l'IRCGN afin de faire procéder à des analyses d'identification génétique qui permettait de conclure ce 31 mars qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Émile Soleil. Voilà donc sans doute, sinon le dénouement, du moins une information essentielle, le petit Émile qui était évidemment toujours disparu.
Il est midi passé ce dimanche 31 mars. Une partie de la France, dont la famille Soleil, célèbre Pâques et la résurrection du Christ. Quant à communiqué laconique du parquet d'Aix-en-Provence, met fin à 9 mois d'incertitude. Le petit Émile est mort. On avait perdu sa trace le 8 juillet dernier. En vacances chez ses grands-parents, il avait été aperçu pour la dernière fois, t-shirt jaune, short blanc et chaussures de randonnée, dans la rue principale du hameau. Il était environ 17h45. Depuis, plus rien. Un dispositif de recherche impressionnant se déploie. Des gendarmes, des pompiers, des drones, un hélicoptère, des chiens, des caméras thermiques, des dizaines de bénévoles ratissent les environs dans un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents.
On resserre à droite, on fait un maillage serré. À droite, on resserre.
C'est très difficile, on a à peu près fait 2,5 km, je crois. Vous regardez autour de vous pour voir si vous ne voyez pas soit des traces dans les champs de blé ou soit... Voilà, un t-shirt, quelque chose qui ressort, mais c'est vrai que c'est très difficile.
Mais rien. Les premières 48 heures de recherche, cruciales, se passent sans un signe de l'enfant. Les opérations de ratissage prennent fin. La disparition d'Émile devient un mystère. Les semaines passent, les enquêteurs ouvrent des portes qu'ils referment aussitôt. En septembre, c'est un voisin qui fait l'objet d'une attention particulière. Valentin Doyen, journaliste à BFM d'ici.
Les enquêteurs sont arrivés hier et depuis hier, il y a des voitures banalisées qui sont devant une maison. Il y a également un camion qui transporte des gravats et les enquêteurs sont avec un marteau-piqueur et ont démonté une dalle en béton qui a été construite au moment de la disparition du petit garçon.
Fin octobre, c'est un jeune agriculteur de la région qui éveille les soupçons.
Alors que Romain repassait chez son cousin dans le hameau, le grand-père lui a reproché vertement d'avoir abîmé une partie de son terrain avec son tracteur.
Il a eu une altercation le matin avec le grand-père. Il s'avère que le grand-père d'Émile est quelqu'un qui a son caractère et qui n'est pas le dernier pour pousser des gueulantes. Mais il s'avère aussi que ce jeune agriculteur a pris l'habitude de rouler vite. Il a eu par le passé des petits accidents ici et là avec des touristes, des gens du coin.
Le passé du grand-père d'Émile, plus récemment, a soulevé quelques interrogations lui aussi.
C'est donc l'information principale ce matin. Le grand-père du petit Émile est soupçonné de violence au sein d'une communauté religieuse. Vous l'apprenez sur BFM d'ici, l'homme est présent dans un dossier qui intéresse la justice. Selon nos informations, le grand-père du petit garçon disparu il y a 8 mois a voulu devenir prêtre lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Et c'est dans la communauté de Riaumont, près de Lens, qu'il a passé plusieurs mois à encadrer des enfants, une communauté secouée par des soupçons de violence physique et sexuelle.
Les 125 habitants du village deviennent les spectateurs d'un théâtre macabre quand aux forces de l'ordre s'ajoutent des détectives du dimanche ou encore des médiums. Tom Carcourt, journaliste à BFMTV.com.
Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont rendus sur place et qui ont essayé de le trouver grâce à leur vision. C'est notamment un live sur TikTok qu'on a pu retrouver grâce à des extraits où on a une personne qui suit ses visions. Elle se balade un peu dans les broussailles. Et il faut savoir qu'elle n'était pas toute seule puisqu'avec elle, il y avait d'autres personnes également médium.
Mimi ?
Il entend là, putain, il a gémi.
Il doit pas être loin parce que chez moi ça tremble, mais je vous raconte pas comment.
Essaye de l'appeler, appelle-le de nouveau. Appelle-le.
Il y a des brindilles, il y a des brindilles, il y a des brindilles.
Mimi ?
T'es pas loin, t'es pas loin.
Mimi ?
Il est là, il est là, il est là. Oh, ça me monte les frissons, il est là.
Alors, quand tombe la nouvelle, ce dimanche 31 mars, la tristesse des habitants se teinte parfois d'un certain soulagement.
C'est triste, c'est dramatique. C'est que dire, voilà, être tous peinés et voilà, c'est avoir de la peine. Et j'espérais que, justement, cet enfant soit retrouvé. Et...
C'est toujours terrible, hein, de toute façon, que ça soit... Un enfant, enfin, qui que ce soit, je crois que ça va être bien pour tout le village, on va être plus serein. Voilà, on va pouvoir revivre.
Pourtant, l'enquête n'est pas finie. Aucune piste n'est écartée. L'enfant a pu marcher et se perdre. Le maire du village, François Balic, évoquait déjà cette hypothèse au début des recherches.
Quelqu'un qui savait bien marcher, malgré son âge. Mes grands-parents m'ont dit, c'est... Déjà, à son âge, il marche bien, donc il a pu faire quelques distances, parcourir quelques distances, et peut-être à ce moment-là, se perdre, se cacher, c'est que des hypothèses sont possibles.
Il a pu se cacher, une partie de son corps a pu être déplacée par des intempéries ou par des animaux. Écoutez l'ancien procureur Jacques Dallest.
Alors, ce qui est possible aussi d'envisager, c'est que des animaux sauvages aient déplacé le crâne de l'enfant. Ça s'est vu malheureusement dans d'autres affaires. Le temps passant, la nature et les animaux déplacent. Et donc, on peut s'étonner aujourd'hui de retrouver ce crâne alors qu'il était peut-être dissimulé avec le reste du corps dans une infractuosité, dans un trou. C'est ça un peu la difficulté. Et ça n'écarte pas, évidemment, l'hypothèse de l'intervention d'une tierce personne dans le décès du petit Émile.
L'intervention d'une tierce personne, la piste criminelle donc, qui plane toujours au-dessus du village du Vernet. Depuis ce lundi matin, les recherches ont repris. Les gendarmes, les chiens sont de retour au village. Seulement qu'aujourd'hui, l'espoir de retrouver l'enfant vivant, les questions, elles, restent toujours aussi nombreuses. Bonjour Dominique Rizet.
Bonjour Athénaïs.
Vous êtes consultant police-justice à BFM TV. Ouais. Hier, vous avez été le premier en plateau à devoir réagir au communiqué du parquet d'Aix-en-Provence. À l'antenne, vous dites que vous avez d'abord cru à un canular. Pourquoi ?
Ouais. Parce que ce communiqué est tombé à midi et demi, comme ça, à deux jours après la remise en situation ou la mise en situation dans le village du Vernet. Et ça paraissait tellement énorme que d'abord, je ne l'ai pas cru.
Et alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de ces ossements ? Déjà, comment et par qui est-ce qu'ils ont été retrouvés ?
Alors, les ossements ont été retrouvés par une randonneuse qui, visiblement, est quelqu'un du village et qui a fait cette découverte d'un crâne, d'une partie d'un crâne, et qu'il a pris
premier problème.
Dans ses mains, problème, et qu'il a emporté à la gendarmerie. Elle est ensuite retournée avec les gendarmes sur place, qui ont trouvé d'autres éléments, notamment des dents. Et oui, elle n'aurait pas dû le faire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce cas-là ? Elle n'aurait peut-être pas retrouvé l'endroit. Elle aurait peut-être... Voilà, bon, en tout cas, elle a retrouvé le crâne du petit Émile. Ça a été confirmé le dimanche matin.
Et alors, ces ossements, ils sont en cours d'analyse. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de révéler ?
Alors... Ce crâne, ce petit crâne, pourrait révéler les conditions dans lesquelles les causes de la mort d'Émile. Si ce crâne présente des traces de coups ou de fractures. Il peut y avoir plusieurs types de fractures. Et je répète ce que disait un médecin légiste hier sur le plateau de BFM, le docteur Marc. Si Émile est tombé, et si c'est un accident, s'il s'est assommé, qu'il a perdu connaissance et qu'il est mort ici, il est petit. Donc le centre de gravité est bas. S'il tombe et qu'il a une fracture, ça sera une fracture linéaire, une trace sur le crâne, qui sera grave, qui aura pu provoquer son évanouissement et sa mort. Mais c'est une fracture linéaire. S'il a été frappé, en revanche, à la tête, là on arrive dans un dossier criminel et dans tous les faits entrés l'accusé, les histoires qu'on a traitées, eh bien une trace d'un objet contondant provoquée par un objet contondant sur un crâne, à plus forte raison le crâne d'un enfant, ça va laisser un coup qui va être caractéristique. De la même façon, s'il a reçu un coup au visage, il aura des fractures maxillo-faciales. S'il a reçu un coup sur la tempe, il aura une fracture temporale. S'il a reçu un coup, si on a la mâchoire, on ne sait pas si on a la mâchoire. Si on a la mâchoire et qu'il a le maxillaire cassé, c'est qu'il aurait été frappé. Parce qu'on ne se casse pas le maxillaire quand on a 2 ans en tombant d'une hauteur de 70 cm. Voyez ? Donc c'est tout ça, tout ce que pourra nous dire ce crâne qui a été retrouvé. On a les dents. Si Émile a été asphyxié, étouffé, eh bien, les dents, il y a du sang qui se dépose à la base des dents. Elles sont un peu roses, elles ont une coloration rose. Si on peut encore les exploiter, parce qu'elles sont là depuis 9 mois. Ensuite, pour savoir s'il a été étranglé, ben, il faudrait d'autres parties du corps, notamment le larynx. Mais ça, c'est compliqué parce que manque le reste du corps, de son corps. On a juste sa tête. Alors, là encore, s'il a été blessé ou tué d'un coup de couteau. Un coup de couteau, ça peut laisser des traces. Pas forcément pas uniquement dans la chair, mais la lame du couteau peut laisser une marque sur les côtes. La pointe du couteau peut laisser une marque sur le sternum ou sur une côte aussi. Et ça, des légistes le verront. Le problème, c'est qu'on n'a pas le reste du corps et c'est pour ça que les gendarmes s'emploient à retrouver tous ces éléments manquants, c'est-à-dire son squelette.
Mais justement, sur ce sujet, c'est quoi les hypothèses à l'heure actuelle qui peuvent justifier que l'ensemble du corps ne se trouve pas justement au même endroit ?
Le crâne peut avoir été déplacé par des intempéries. On est dans une zone montagneuse, il a beaucoup plu, il a neigé. Je vous rappelle quand même qu'il disparaît le 8 juillet, que va passer l'automne, va passer l'hiver. Il a énormément plu en France. Il y a eu de la neige là-bas, donc le crâne peut s'être déplacé comme ça, avoir été poussé par un éboulement, ou ça c'est possible. Et puis il peut avoir été transporté par des animaux sauvages, c'est tout petit. Le crâne d'un enfant de 2 ans et demi. Et on rappelle quand même, et on l'a déjà dit, alors c'est dur pour ceux qui écoutent, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est de la science, et c'est de la science criminelle ou de la science de l'anthropologie. Il y a des sangliers, il y a des renards, il y a des loups, à cet endroit-là. Il y a des aigles, puisque l'hypothèse de l'enlèvement d'Émile par un aigle, elle avait été envisagée. De la même façon, l'hypothèse d'Émile tué par un loup, elle avait été envisagée. Et puis il y a des rapaces, tout simplement des rapaces, des buses, des corbeaux, des corneilles, des animaux sauvages qui peuvent intervenir. Et puis ensuite, il y a tous les insectes nécrophages qui peuvent intervenir sur le corps et qui vont manger les chairs. Donc voilà quoi. C'est difficile maintenant, on peut travailler que sur un squelette.
C'est assez dingue d'envisager ces hypothèses-là d'animaux sauvages, tout en sachant que la zone a été ratissée par des chiens des brigades cynophiles, mais aussi des chiens de chasseurs, parce que c'est une zone de chasse qui, depuis, est toujours utilisée par les chasseurs. Ouais. Comment est-ce que ces chiens-là, qui sont connus quand même pour avoir un flair extrêmement développé, peuvent passer à côté de ça?
C'est vrai que c'est surprenant. Alors, il y a des chiens, les chiens de la gendarmerie qui ont cherché. Alors, il faut faire la différence entre... En fait, il y a plusieurs types de chiens. Il y a des chiens pisteurs, donc qui vont chercher Émile dès sa disparition. On leur donne un objet qui appartient à Émile, ils vont le chercher. C'est des Malinois, c'est des Saint-Hubert. Donc ça, c'est le temps du vivant d'Émile. D'accord ? Dans les heures qui suivent, on le recherche avec ces chiens-là. Mais le sol, il a été souillé par tout un tas de personnes qui ont cherché Émile avant même l'arrivée des chiens de la gendarmerie. Donc la piste, à chaque fois, elle se perd un peu. D'ailleurs, le Saint-Hubert s'arrête devant le lavoir et n'ira pas plus loin.
Quelles vont être, selon vous, les prochaines étapes cruciales de cette enquête? Combien de temps peuvent mettre ces ossements à parler?
Alors, le crâne d'Émile, il va parler assez vite. Hein. Je pense même qu'il a déjà parlé. En fait, pour l'instant, c'est 50-50. 50% c'est un accident, 50% c'est un homicide, volontaire ou non, hein, de quelqu'un qui l'aurait renversé avec un tracteur, une voiture, et qui aurait déposé son corps un peu plus loin pour faire croire à un accident, à une disparition, un accident. Mais voilà, ce serait un homicide involontaire, ou alors c'est un meurtre, et on a déposé son corps, mais c'est 50-50.
Merci Dominique Rizet, et merci à Eva Serraiol pour le montage de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le titre à la une sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Vous Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on revient sur les origines du poisson d'avril. Les enfants les dessinent sur des papiers et se les collent dans le dos, mais les poissons d'avril prennent aussi la forme de blagues, voire plus récemment de fake news sur les réseaux sociaux. Alors d'où viennent-ils? Pourquoi parle-t-on de poissons? On a posé la question à Salomé Robles, journaliste pour BFMTV.com. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.